Bruxelles. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition spéciale consacrée au sommet États-Unis-Afrique qui se tient cette semaine à Washington entre le président Barack Obama et une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement africains. Chez Robin Dorsil, en direct du studio 13 de la Voix de l'Amérique à Washington, en compagnie d'Idrissa Seloudia. Bonsoir Idrissa.
Bonsoir Gabi.
Avec nous par téléphone pour ce spécial, le professeur Leonard Wanchekon de Princeton University, Moussa Blempo de l'Université d'Oklahoma.
Et le sommet qui s'est ouvert lundi s'est poursuivi dans la capitale fédérale américaine. L'objectif est de renforcer, comme vous le savez Gabi, le partenariat entre les États-Unis et l'Afrique et favoriser le développement inclusif et durable sur le continent. Le président Barack Obama est en train de parler maintenant. Il a annoncé en quelque sorte une série de mesures prises par les compagnies américaines qui ont pris l'engagement de dépenser quelque chose comme 14 milliards de dollars dans différents projets en Afrique.
Monsieur Obama a souligné l'importance des relations entre les États-Unis et le continent africain. « Nous ne saurions perdre de vue qu'une Afrique nouvelle est en émergence », a dit Monsieur Obama au début de son discours. Demain 6 août, des sessions de travail sont prévues sur trois thèmes : investir en Afrique, paix et stabilité régionale, gouverner pour la génération future. Aujourd'hui, les participants au sommet ont préparé un forum sur les affaires sur les relations entre l'Afrique et l'Amérique. Pour plus de détails, notre envoyé spécial Nicolas Pinault.
Alors évidemment, ce mardi à l'hôtel Mandarin Oriental, ici dans la capitale américaine, les discussions se sont poursuivies, notamment ce forum organisé par Bloomberg Philanthropie. Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, a pris la parole, mais également Nkosazana Dlamini Zuma, la présidente de la commission de l'Union africaine, qui a pris la parole pour demander aux entreprises et aux États d'investir dans la meilleure ressource de l'Afrique, c'est évidemment sa population. Je vous propose tout de suite d'écouter Madame Dlamini Zuma.
Africa's most precious resource is its over a billion.
La plus précieuse des ressources de l'Afrique est sa population, qui atteint plus d'un milliard de personnes. La majorité de cette population est jeune et plus de la moitié sont des femmes. Investir pour leur santé, leur éducation et l'accès aux services de base est critique pour les organisations régionales et l'Union africaine.
Voilà, il y a également eu d'autres interventions et les discours continuent. On a notamment Joe Biden, le vice-président américain, qui a pris la parole. Joe Biden qui a rappelé que plus de 6400 produits africains entraient depuis sur le marché américain sans droit de douane, grâce évidemment à cette loi de l'AGOA qui normalement doit prendre fin en 2015. Et l'administration américaine qui espère pouvoir voter son renouvellement auprès du Congrès. Actuellement, c'est John Kerry, le secrétaire d'État américain, qui est en train d'exprimer sa vision du monde à la parole. Et le secrétaire d'État américain a rappelé que le monde avait bien changé depuis la chute du mur de Berlin. Nous ne sommes plus dans un monde hiérarchique avec des grandes puissances, mais plutôt un monde en réseau. Et M. Kerry a expliqué que l'Afrique se trouvait au cœur de ces réseaux. Alors, il y a eu différentes réactions à toutes ces interventions. Je vous propose d'écouter notamment Gilbert Ondongo. Il est le ministre des Finances du Congo, Brazzaville.
Ce sont des partenaires. C'est à nous de tirer profit de ce partenariat. Nous travaillons avec les entreprises américaines dans le domaine du pétrole, notamment avec Chevron, qui a aujourd'hui un grand champ qui est entre les deux pays, l'Angola et le Congo. Ils sont en train de travailler sur le champ avec, pour base d'opération, le Congo. L'AGOA, c'est la possibilité donnée aux pays africains d'exporter vers les États-Unis sans barrière douanière. Ce n'est pas rien, c'est essentiel. Le marché américain, chacun sait, ce n'est pas un marché facile. C'est un marché assez difficile, avec beaucoup de normes, beaucoup de réglementations. Cette facilité a été accordée aux pays africains en 2000 par le président Clinton. C'était l'un des plus beaux cadeaux qu'on pouvait nous faire. Et nous, aujourd'hui, Congo, nous profitons pour essentiellement le pétrole. On exporte essentiellement le pétrole. On aimerait travailler pour faire mieux que l'exportation du pétrole. Et nous y travaillons. Jusqu'à il y a 3 ou 4 ans, les États-Unis étaient le premier importateur du pétrole du Congo. Donc nous vendions aux États-Unis plus de 30% de notre pétrole. Dernièrement, ce sont les Chinois qui se sont placés devant, mais les États-Unis restent le deuxième importateur du pétrole congolais.
On le sait, hein, ce sommet est placé sous le thème d'investir dans la nouvelle génération. Et pour cela, les Américains mettent l'accent sur le business, sur le monde des affaires. On se souvient de cette initiative Power Africa, hein, pour électrifier l'Afrique qui, à travers un mélange de partenariats public-privé, nécessitait 14 milliards de dollars pour pouvoir aider. Joe Biden a rappelé que 2/3 des Africains vivaient encore dans des pays où il y a des problèmes d'électricité. Et puis ce qui serait important de rappeler, on a beaucoup parlé de Bill Clinton et de la GOA, on a beaucoup parlé, Idrissa, du PEPFAR avec George W. Bush, et pour le moment, le président américain, le président Barack Obama, premier Africain-Américain à être élu à la tête du pays, il doit porter sa signature et beaucoup attendent un engagement fort du président qui laissera sa marque dans l'histoire. On parle peut-être d'un engagement sur la bonne gouvernance, sur le respect des constitutions. Nicolas Pineau, Washington, La Voix de l'Amérique.
Oui, c'était Nicolas, plutôt dans la journée, au forum, les affaires entre l'Afrique et l'Amérique. Le président Obama a depuis prononcé son discours sur les investissements, les engagements pris par les firmes américaines. Alors, Nicolas, vous avez écouté ce discours, n'est-ce pas ?
Oui, et ce discours qui n'est pas terminé ici au Mandalay Hôtel de Washington, le président américain qui s'exprime en ce moment et qui insiste, le capital est une chose, le développement est une chose, mais il a insisté auprès des leaders africains, la règle du droit, la good governance sont évidemment des choses très importantes pour le développement en Afrique. Il a aussi rappelé que la place des femmes était importante. Barack Obama a annoncé plusieurs initiatives, notamment la création d'un conseil pour le doing business en Afrique, qui lui permettra justement d'aiguiller les investissements en Afrique. Et Barack Obama qui continue ici son discours au Mandarin Hotel. C'est un discours important, hein, on le rappelait tout à l'heure, car beaucoup en Afrique attendent du président américain, premier Africain-Américain à être élu à la tête du pays, attendent un engagement fort, notamment pour inciter les leaders africains à respecter les constitutions et à faire de la bonne gouvernance chez eux. On vous en dira plus demain matin dans nos éditions.
Oui, Nicolas, avant de partir, Nicolas,
oui.
Est-ce qu'il a parlé des 14 milliards annoncés plus tôt dans la journée ?
Oui, mais alors c'est-à-dire que c'est différentes initiatives. Hein. Maintenant, il parle de 26 milliards de dollars pour Power Africa, cette initiative qui permettrait d'électrifier les pays pour 60 millions d'habitants qui, pour le moment, connaissent évidemment des problèmes d'électricité. Et le président américain qui a annoncé plusieurs séries d'initiatives, beaucoup, beaucoup de chiffres. Et maintenant, les Africains attendent des engagements concrets sur le terrain.
Merci, Nicolas. Gabi ?
Nicolas Pineau, notre envoyé spécial à ce sommet États-Unis-Afrique. Défis et enjeux dans les relations entre les États-Unis et le continent africain. Leonard Wanchekon est professeur à Princeton University.
Bon, c'est très positif, hein. C'est-à-dire c'est un sommet entre chefs d'État, c'est un sommet impliquant les hommes d'affaires, c'est un sommet avec les membres de la société civile, la diaspora, donc c'est assez large, c'est assez inclusif et je pense que c'est une très bonne chose. Ensuite aussi, je trouve que le thème qui est investi en Afrique, notamment dans le domaine des infrastructures de l'énergie, ça c'est également très 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 important pour l'avenir du continent.
Alors, l'Afrique, c'est la deuxième région du monde en termes de croissance économique, professeur Wanchekon, mais sur le plan pratique, qu'est-ce que le continent peut vraiment tirer d'une telle rencontre, la première du genre d'ailleurs?
Bon, ce qu'elle peut tirer, c'est les engagements plus fermes de la part des États-Unis de soutenir le développement de l'Afrique par des investissements assez importants dans le domaine des infrastructures, des routes, des ponts, dans le domaine de l'énergie. Et également au niveau du capital humain. Donc l'Afrique est un continent jeune, c'est un continent de jeunes très ambitieux. Et donc c'est important d'investir. Et je crois que les universités américaines ont beaucoup à faire dans ce domaine-là pour apporter leur savoir-faire et donc dans la formation de la jeunesse africaine. Donc je crois que c'est une énorme opportunité de ce point de vue-là.
Merci, professeur Wanchekon. Est-ce que nous avons en ligne Moussa Blimpo de l'Université d'Oklahoma ?
Bien sûr.
Alors, Moussa, professeur Blimpo, vous m'entendez? Professeur Blimpo?
Oui, allô, je vous entends. Oui,
oui, alors, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. On parle beaucoup de croissance, mais expliquez-nous la différence qu'il y a entre croissance et développement.
Bon, la croissance, elle se focalise essentiellement sur les revenus. Et lorsqu'on parle de croissance, surtout on regarde le revenu moyen dans un pays, et ça peut nécessairement ne pas refléter les questions de développement. C'est-à-dire que si on regarde les questions de pauvreté, on peut avoir les grandes entreprises qui font de gros bénéfices alors que le commun du mortel n'a pas nécessairement ces retombées-là. Mais cela ne veut pas dire que le développement n'est pas forcément une bonne chose. C'est que ça peut prendre du temps. La croissance peut prendre du temps avant que toute la population en bénéficie. Donc, lorsqu'on regarde la trajectoire de la croissance économique en Afrique, il y a en réalité que ces 15 dernières années qu'on a un semblant de croissance soutenue. Donc, moi, je suis confiant que d'ici une génération, d'ici 25 ans et plus, on pourra avoir de grandes retombées. Mais pendant ce temps, il y a des problèmes sociaux qui ne peuvent pas attendre. Donc, c'est les problèmes de pauvreté, les problèmes d'infrastructure et tout ça qui vont prendre du temps à être réglés. Mais avant d'en arriver là, il faudrait certainement qu'on maintienne le cap de la croissance quand même.
Et professeur, qu'est-ce qui explique par exemple que la Chine exerce une si grande influence en Afrique maintenant, au point que plusieurs pays africains semblent accorder beaucoup plus d'importance aux investissements chinois?
Bon, je vois deux raisons par rapport à ça. La première concerne les questions de gouvernance et des questions de souveraineté, qui fait que la Chine, en réalité, vient pour faire du business et moins regardant sur les questions de gouvernance. Et vous savez que l'Afrique est en train de subir une transformation sur le plan de la gouvernance également et que la Chine qui s'en mêle moins, en fait, est mieux vue du côté des dirigeants. Le deuxième facteur qui est très important à comprendre, c'est que les problèmes, l'Afrique partage en fait beaucoup de choses en commun avec la Chine. La Chine est un grand pays lorsqu'on parle du revenu général de la Chine, de la taille de l'économie, mais la Chine est un pays pauvre en réalité. Lorsqu'on regarde le pourcentage de Chinois qui vivent dans des conditions très difficiles, des fois similaires à ce qu'on voit dans nos villages africains, ça fait que en fait la Chine comprend mieux l'Afrique. On partage beaucoup de choses en commun comparé aux Occidentaux qui ont du mal à passer le cap des grandes capitales africaines où on a un semblant de similarité avec l'Occident des fois et de vraiment comprendre ce que les populations vivent. Je crois que ces deux raisons mises ensemble expliquent un peu pourquoi il y a un certain engouement qui peut être temporaire, mais quand même un certain engouement vis-à-vis des investissements chinois en Afrique.
Merci, professeur Blimpo. Je vais maintenant me tourner vers le professeur Léonard Van Tjekhon. Professeur, vous êtes encore avec nous?
Oui, je suis là.
Oui, alors, donc, il a parlé de la Chine, mais je crois qu'on peut dire la même chose aussi de l'Inde. Mais au-delà de cela, est-ce que le climat est propice aux investissements en Afrique?
Disons que cela l'est de plus en plus. Ça s'améliore. En fait, il y a dans beaucoup de pays, les chambres de commerce, le patronat qui s'organise et ils ont un poids politique de plus en plus important. Donc, ça veut dire que la situation sur le plan du climat d'affaires s'améliore. En dehors de ça, il y a le fait que c'est devenu de plus en plus une exigence, quoi. Donc, des États-Unis, de l'Europe en particulier. Et donc, afin de pouvoir attirer les investissements étrangers, les gouvernements sont obligés, en fait, de s'améliorer sur ce plan-là. Donc, on peut dire que la situation n'est pas encore là où elle doit être, mais elle s'améliore beaucoup.
Bien, c'était le professeur Léonard Van Tjekhon de Princeton University, Gabi.
Et également, nous avions le professeur Moussa Blimpo de l'Université d'Oklahoma. Le sommet États-Unis-Afrique qui se tient ici à Washington jusqu'à demain mercredi se déroule autour du thème « Investir dans la prochaine génération ». Il est question de sécurité, de gouvernance et de développement sur un continent en pleine expansion économique, oui, mais où sévissent divers conflits et des situations de crise, Idrissa, que ce soit en Centrafrique, en RDC, dans le nord du Mali ou ailleurs. Alors, dans ce contexte, qu'attendent les Africains de ce sommet ? L'opinion de l'homme d'affaires congolais Gilbert Mundela.
Ce sommet, d'ailleurs, il est bienvenu. C'est le premier de ce genre que l'Amérique organise. Et nous, Africains, nous devions supporter cela parce que nous pouvons maintenant influer pour changer la dynamique d'activité et d'action que les Américains peuvent prendre en venant au Congo. On doit créer des partenariats gagnant-gagnant qui vont permettre aux Africains de se retrouver. Imaginez, par exemple, dans le secteur café. Le secteur café génère plus de 100 milliards de dollars, sur lesquels l'Afrique ne gagne que 6 milliards. 94 milliards, c'est produit et dépensé et gagné à l'extérieur. Qu'est-ce que le paysan africain gagne dans tout ça? Mais si nous nous venons ici, c'est pour que nous parlions des termes de commerce. Nous avons hérité des engagements qui avaient été pris par nos colonisateurs, qui nous ont mis dans le système mondial de commerce. Mais nous n'avons jamais eu le temps de revoir ces législations pour les adapter aussi à nos réalités. Et aujourd'hui, je crois que c'est une opportunité pour l'Afrique de pouvoir poser ce problème et dire les termes d'engagement que nous avons ne sont pas porteurs pour l'Afrique. Certes, nos populations en bénéficient, mais ce sont des miettes. Et nous demandons plus parce que nous méritons plus, parce que nous offrons ce dont ils ont besoin et nous devons savoir aussi en bénéficier.
Je me souviens, dans nos précédentes conversations, vous étiez particulièrement intéressé par les barrages et fournir de l'électricité à toute l'Afrique. Mmh. Où en est ce projet ?
Le projet INGA, comme vous le savez, c'est un projet qui est très capital. Mais c'est un projet qui ne peut pas être développé par le Congo seul. Et je crois que c'est un don que le Congo offre à toute l'Afrique. Nous voyons dans la provision de l'électricité la possibilité d'industrialiser l'Afrique. Ce que nous demandons maintenant, c'est que l'Afrique se prenne en charge et prenne INGA comme un acquis qu'elle va développer avec le Congo. Qu'elle va mettre tout son savoir-faire, son capital, pour que INGA devienne une réalité. Que ce ne soit pas seulement l'affaire du Congo. Le Congo va en bénéficier, effectivement, puisque INGA se trouve au Congo. Mais que l'Afrique entière puisse en tirer profit, parce que c'est ce que Dieu nous donne pour donner aussi à l'Afrique. Dans ce sens que, avec l'électricité, chaque pays pourra s'industrialiser, l'Afrique va changer, et l'électricité va créer un climat d'investissement où la paix va régner.
Comment est-ce que ce projet INGA pourrait s'inscrire dans le programme général, la politique de Obama concernant Power Africa?
Justement, nous avons posé cette question à Mme Linda Greenfield sur comment pouvez-vous concevoir Power Africa sans INGA. Elle a dit que INGA est ressuscité et que le secteur privé est en train de s'impliquer. Moi, je crois plutôt que l'Afrique doit faire grandement attention et s'impliquer, elle, dans la réalisation d'INGA, plutôt que laisser seulement le secteur privé prendre charge de INGA. Nous pouvons créer un système de partage, de shareholder. L'Afrique devient actionnaire dans l'affaire INGA, le grand INGA, que ce soit l'affaire de toute l'Afrique. Que l'Afrique se mette ensemble pour faire grand INGA. Et alors, nous saurons répondre aux besoins de nos populations. Sans énergie, l'industrialisation de l'Afrique ne va pas se faire. Sans énergie, les mines ne vont pas produire. Nous devons penser à cela et que les dirigeants africains qui ont une vision, qui comprennent l'Afrique et qui veulent travailler pour l'Afrique se mettent ensemble pour que nous créions pour la première fois. C'est ça la fameuse intégration que nous cherchons.
Eh bien, c'était Gilbert Mundela Chimanga, homme d'affaires congolais, et du Congo Diaspora Network. Écoutons maintenant les opinions de quelques Burkinabés que notre correspondant Zoumana Wonogo a rencontrés à Ouagadougou.
Salam Ouedraogo, Barack Obama, vraiment, c'est un président exemplaire. Que si depuis la nuit des temps, on en avait eu des présidents de ce genre-là, on n'était pas à ce stade. Mais maintenant, la relation qu'il a avec les chefs d'État africains, ça nous a beaucoup plu de pouvoir les approcher de cette manière. Et si réellement ils vont prendre la voie qu'il aura suggérée, ça va nous sauver bien sûr. Mais la question est de savoir comment ils vont accepter les propositions de ce président qui veut nous sauver.
Ça va, Patrice. Ce que je vois, Obama, il est en train de faire une bonne chose. Parce que les gens pensent que durer dans le pouvoir, c'est ça qui va développer le pays. C'est pas ça. Donc, moi, ce que je vois, Obama, il n'a qu'à le dire la vérité. Le mandat doit limiter deux fois.
Moi, je m'appelle Konkobo Bassama, secrétaire administratif de l'Union des travailleurs domestiques et gardiens du Burkina. C'est une bonne chose que l'Afrique et l'Amérique se rapprochent, puisque fort longtemps, l'Afrique était le valet de l'impérialisme français, où c'est la France seulement qui décidait. Je me rappelle l'ancien président Omar Bongo disait que l'Afrique sans la France, c'est comme un camion sans carburant. Mais maintenant, si en coopération, l'Amérique veut s'intéresser à l'Afrique parce que les Chinois sont venus pour envahir l'Afrique, la génération future n'a plus d'espoir. Moi, en tout cas, je le cautionne. Je crois qu'il veut consolider les institutions.
Wesley Louloulon, je suis ancien directeur de la Radio Nationale du Burkina Faso. Les collègues, les amis avaient commencé comme ça à me surnommer Obama. Et dans la foulée, il a pris fonction en janvier. Et en février, j'ai été proposé à la direction de la radio. C'est pour moi un rattrapage pour un frère africain comme les gens ont voulu voir en lui et qui, au terme de son premier mandat, n'a pas pu réellement mettre quelque chose qui est sa marque, une manière de créer un cadre de développement économique. Je ne vois pas beaucoup le caractère politique comme beaucoup penseraient.
Moi, je suis Nabil Gilbert. Mais néanmoins, ce que moi je vois tout simplement, c'est sur la question de limitation du mandat. Au moment qu'ils vont faire leur constitution, ils devraient réellement dire un mandat renouvelable une seule fois, cadenassé, verroué, terminé. Vraiment, ce que Obama vient de faire tout de suite, qu'il mette ça en idée de toutes les choses, les chefs d'État qui seront devant lui.
Avant de mettre fin à cette édition, voici un bulletin d'information, présentation Bagassi Koura.
Bonsoir à tous. Épidémie d'Ebola, la missionnaire américaine Nancy Wright Ball, infectée en Afrique par le virus Ebola, est arrivée ce mardi ici aux États-Unis pour être traitée dans un hôpital spécialement équipé à Atlanta, selon les images retransmises notamment par la chaîne CNN. La Banque mondiale a par ailleurs mobilisé 200 millions de dollars pour aider à contenir l'épidémie d'Ebola qui a tué près de 900 personnes, Michel Joseph.
Makhtar Diop, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, a souligné que les pays touchés, comme la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, sont des États fragiles qui ont besoin d'une réponse rapide. Le Nigeria, le pays le plus peuplé et première économie du continent, est lui aussi frappé. En raison de la gravité de la situation, les présidents du Libéria et de la Sierra Leone ont renoncé à participer au sommet historique États-Unis-Afrique qui se déroule actuellement à Washington. Selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, elle a fait près de 900 morts sur plus de 1600 cas présumés. Des virologues américains espèrent tester dès septembre un vaccin qui, en cas de succès, permettrait d'immuniser au moins le personnel soignant dès 2015.
L'organisation non gouvernementale Amnesty International accuse l'armée nigériane et les milices civiles qui la soutiennent de violations massives des droits de l'homme dans leur combat contre le mouvement islamiste Boko Haram dans le nord-est du pays. Selon l'ONG, des vidéos, des images et des témoignages recueillis lors d'une récente mission dans l'état de Borno ont fourni de nouvelles preuves d'exécutions extrajudiciaires et de graves violations des droits humains par de présumés soldats et d'autres groupes armés. Le nouveau parlement libyen issu des élections du 25 juin s'est installé lundi et a élu son président à Tobrouk, loin de la capitale, en proie aux violences. Les députés ont prêté serment avant d'élire tard un des députés méconnus du grand public comme le président du parlement, Jean-Roger Billon.
Aguila Salah Issa, un député de la ville d'Al-Koba dans l'Est libyen, l'a emporté au terme d'un deuxième tour devant Aboubakr Bira, qui a présidé lundi la réunion inaugurale du parlement. Monsieur Issa, un juriste qui ne revendique aucune appartenance politique, a occupé plusieurs postes dans le système judiciaire sous l'ancien régime de Muammar Kadhafi. quelques 160 parlementaires sur 188 ont fait le déplacement à Tobrouk, épargnés pour le moment par les violences. Dans un communiqué, l'Union européenne a salué un pas extrêmement important pour remettre la transition démocratique sur les rails. Les gouvernements français, italien, allemand, britannique et américain ont également salué la réunion des députés tout en condamnant les violences à Tripoli et à Benghazi.
En RCA, démission du Premier ministre de la Transition, André Nzapayeke, de son gouvernement. Par ailleurs, un calme relatif règne à Batangafo au lendemain de violents affrontements entre soldats français et ex-Séléka. Le point avec Idriss Fall.
La démission du Premier ministre André Nzapayeke et de son gouvernement a surpris plus d'un. Cette démission est intervenue à la demande de la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, pour permettre la mise en œuvre des engagements issus du forum de Brazzaville. Par ailleurs, les ex-Séléka haussent le ton après les violents affrontements entre les combattants ex-Séléka et soldats français de Sangaris à Batangafo. Pour Moussa Mohamed Dafane, qui avait dirigé la délégation de ce mouvement au forum, la réaction des militaires français est une violation de l'accord de Brazzaville.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de cessation des hostilités de Brazzaville, il était prévu qu'on mette en place un comité de suivi de cet accord-là. Or, ce comité de suivi n'a pas encore été mis en place. On ne peut pas impliquer aujourd'hui les forces internationales pour aller livrer la guerre aux parties. Or, le comité de suivi n'a pas encore été mis en place. Sangaré s'est déployé pour aller livrer la guerre aux ex-combattants de la Séléka pour les déloger de la ville de Batangafo. C'est pas normal.
Le porte-parole militaire de l'ex-Séléka, le capitaine Ahmed Nedjad Ibrahim, a parlé d'au moins 36 morts et à Sangaris, on a parlé de plusieurs morts et des dégâts importants côté Séléka.
En RDC, le député Jean-Bernard Ewanga, secrétaire général de l'Union pour la Nation congolaise, troisième parti d'opposition du pays, a été arrêté ce mardi à Kinshasa selon l'AFP. Cette arrestation intervient au lendemain d'une manifestation organisée contre toute révision de la Constitution qui permettrait au président Joseph Kabila de rester au pouvoir après 2016.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Crise au Proche-Orient, les armes se sont tuées à Gaza où une trêve de 72 heures est entrée en vigueur ce mardi matin. Entre-temps, les efforts se multiplient pour parvenir à un accord durable et la fin du conflit entre Israël et le Hamas palestinien. Israël a aussi annoncé le retrait de ses troupes de Gaza. Selon le colonel Peter Lerner, porte-parole de Sahel, les soldats israéliens vont occuper des positions défensives après avoir détruit les 32 derniers tunnels connus du Hamas. Le groupe utilisait ces tunnels pour des raids transfrontaliers. Pour plus de précision, nous avons joint l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique à Gaza, Scott Bob.
A l'air de tenir pour le moment. Ce matin, quand je suis passé par zone d'interpellation, je n'ai vu aucun signe de militaires israéliens, ni de chars, ni de personnel. Et d'après les militaires israéliens, ils se sont retirés. Ils ne sont pas loin de la frontière avec le Gaza, mais ils se sont retirés du territoire gazéen complètement. Le gouvernement israélien a annoncé que sa délégation qui attendait à Tel Aviv et à Jérusalem irait au Caire pour joindre les délégations palestiniennes pour entamer les négociations sur un cessez-le-feu plus long et peut-être plus dur.
Scott Bob, envoyé spécial de la Voix de l'Amérique à Gaza. Impact du conflit israélo-palestinien sur la politique en Grande-Bretagne. Un membre du cabinet du Premier ministre David Cameron a démissionné en signe de protestation. Dans sa lettre de démission postée sur les médias sociaux, Saïda Warsi a qualifié la politique de Londres sur la crise à Gaza de moralement indéfendable et contraire aux intérêts du pays. Saïda Warsi était la première citoyenne de confession musulmane à devenir membre du gouvernement britannique. Un général américain a été tué dans une attaque perpétrée par un soldat afghan dans un complexe militaire de Kaboul. C'est le plus haut gradé américain à tomber dans le pays depuis le début du conflit en 2001. La Russie a augmenté considérablement l'effectif de ses troupes à la frontière de l'Ukraine ces derniers jours. C'est ce qu'annonce l'OTAN, l'organisation de l'Alliance Atlantique, précisant que l'armada russe dans la zone compte maintenant environ 20 000 soldats avec des chars d'assaut, des hélicoptères et avions de combat, des unités d'infanterie et des forces spéciales.
Voilà, merci à Bagassi Koura. Ainsi s'achève cette édition spéciale consacrée au sommet États-Unis-Afrique de Washington. JLS, Georges Léonard Sagnou, était à la mise en onde. Tian Wang était à la console. Laissez-nous vos messages sur la page Facebook de la VOA. C'était Idrissa Sédoudia en compagnie de Chérubin Dorsil.